RFI. Grand reportage. Charlotte Hydrac.
Bonjour, Grand Reportage nous emmène aujourd'hui en Égypte, dans la capitale de la danse orientale, le Caire. La pratique est ancestrale, une fierté nationale, mais aujourd'hui, elle est menacée. Dans les années 40, 5000 danseuses se partageaient les scènes du pays. Aujourd'hui, elles ne sont plus que quelques dizaines à en faire leur métier, et parmi elles, beaucoup d'étrangères, des Russes, des Australiennes, des Brésiliennes aussi. Les danseuses fascinent avec leurs déhanchés mythiques, mais elles sont aussi mal vues dans la société égyptienne où l'islam conservateur progresse, considérées comme des filles de mauvaise vie, voire comme des prostituées par une partie des Égyptiens et les autorités. Les danseuses orientales du Caire, coriaces, rebelles et fières. Un grand reportage de Pauline Renoir et Maureen Suignard.
Dans un hôtel de luxe, au pied des pyramides de Gizeh, elles sont une quinzaine d'apprenties danseuses venues du monde entier. Chaque élève a déboursé 2000 euros pour suivre pendant 2 semaines des cours auprès des stars du moment. Les professeurs sont des Égyptiennes, mais il y a aussi la Russe Katia, la Brésilienne Soraya ou encore l'Américaine Luna. Sous une lumière tamisée, les élèves se déhanchent pieds nus sur le parquet. Elles observent avec admiration le déhanché de Soraya. Leur professeur danse avec aisance, perché sur des chaussures à très hauts talons. Cette Brésilienne s'est installée au Caire il y a 10 ans. Depuis, elle s'est fait sa place sur les plus grandes scènes.
Oui, j'habite ici, je danse à l'hôtel City Star et au Fairmont. J'ai du travail tous les jours, grâce à Dieu. Je ne m'arrête jamais, je travaille tout le temps.
Un joueur de tambour l'accompagne. Les élèves tentent de reproduire ses mouvements. Elles ont noué des ceintures ornées de pièces métalliques autour de leurs hanches. Depuis une quinzaine d'années, elles sont nombreuses, comme Soraya, à avoir quitté leur pays d'origine pour se lancer dans l'aventure égyptienne. Nous rencontrons Lorna dans un café du centre-ville du Caire. Elle se présente souriante, ses longs cheveux noirs lâchés sur ses épaules.
I am Lorna of Cairo, as I seem to be known.
Je suis Lorna du Caire, c'est comme cela qu'on m'appelle, ou encore Belly Lorna. Je suis écossaise et je travaille ici en tant que danseuse depuis maintenant 10 ans. Je venais en Égypte en vacances depuis des années. J'emmenais mes élèves de danse orientale ici. Je venais pour acheter des costumes, regarder des spectacles de danse, m'en inspirer et aussi prendre des cours. Ce que j'ai adoré ici, c'était la musique orientale. Tu descends dans la rue, tu entends de la musique partout. Par exemple, ce soir, j'ai pris un taxi pour venir. Le conducteur, qui était jeune, écoutait Oum Kalsoum, une grande chanteuse égyptienne du siècle dernier. Le Caire, c'est une ville que tu aimes ou que tu détestes, mais tu peux pas y être insensible.
You know, people get it gets into your blood.
Pour les danseuses étrangères, se produire sur une scène égyptienne avec des musiciens locaux est a priori l'accomplissement d'une carrière. Pourtant, la réalité est bien moins rose. Quand Lorna décide de poser ses valises au Caire, c'est un parcours du combattant qui l'attend.
J'ai eu beaucoup de mal à trouver du travail. C'était vraiment difficile. J'ai voulu faire un test. Pendant 6 mois, je m'étais dit que je travaillerais dans un hôtel, sur un bateau, n'importe où. Et puis, je rentrerais en Écosse si ça ne marchait pas. Mais j'aurais eu mon expérience
Kairot.
J'étais très naïve, je n'ai pas réalisé à quel point c'était difficile d'obtenir un permis de travail. Je n'avais pas réalisé à quel point la question n'était pas « Est-ce que tu danses bien, mais qui sont tes contacts ?» Je ne savais pas tout cela.
Et vous avez eu vos papiers ?
Au bout d'un an. Après 6 mois passés ici, je n'avais toujours pas de travail. Je me suis dit, j'ai donc perdu 6 mois de ma vie ? Je me devais d'atteindre mon but, donc je suis restée pour l'année. Et j'ai réussi. Une semaine avant que je prenne mon avion, j'ai reçu 2 offres d'emploi le même jour.
Pour obtenir leur visa de travail, les étrangères doivent d'abord décrocher un contrat avec un hôtel ou un cabaret. Un contrat qui leur interdit de danser sur des scènes concurrentes. Le gouvernement égyptien surveille et limite ainsi leur activité, car les étrangères se produisent à des prix cassés. Pour l'État, c'est de la concurrence déloyale vis-à-vis des Égyptiennes. Les touristes occidentaux ont fui les lieux de fête depuis la révolution qui a chassé Hosni Moubarak au pouvoir depuis 30 ans. Le tourisme, secteur clé de l'économie égyptienne, se porte mal. En 2010, 15 millions de visiteurs s'étaient rendus dans le pays. Depuis le début de cette année, ils ne sont plus qu'un million. La nuit est tombée sur les célèbres rives du Nil. Les péniches proposent des spectacles de danse traditionnelle. Désormais, seuls des Égyptiens aisés et des Arabes du Golfe y viennent pour admirer les danseuses orientales. À bord du Blue Nile, les clients paient l'équivalent de 25 euros, dîner et spectacle inclus. Sahar, une danseuse égyptienne, s'y produit deux fois par semaine. Elle est accompagnée par cinq musiciens et un chanteur. La princesse, comme l'appelle le propriétaire du bateau, fait son entrée. Elle virevolte entre les clients attablés, s'approche, les séduit. Après une heure de spectacle, les habitués viennent la féliciter chaleureusement. Une amie fait la traduction.
C'est chez moi ici, c'est mon bateau.
Elle adore cet endroit.
Pourquoi ?
Parce qu'elle est la seule à danser sur cette péniche. En plus, elle aime son public, tous les spectateurs la connaissent. Et c'est grâce au Blue Nile qu'elle est devenue encore plus célèbre.
Une longue jupe ouverte devant, une poitrine généreuse soutenue par une brassière à paillettes, rien n'est laissé au hasard. C'est Sahar qui attire les clients. Antoine Mchaoui, le propriétaire, l'a choisi avec soin et pas que pour ses talents de danseuse.
D'abord, la danseuse doit être belle, attirante et souriante. Elle doit avoir un joli corps. Excusez mon langage, mais elle doit aussi avoir de beaux seins, parce que les danseuses orientales ne sont pas des mannequins sans forme. Il faut qu'elle ait une grosse poitrine pour la montrer aux clients quand elle danse. Ce sont les premiers critères que nous retenons pour choisir une danseuse orientale. Ensuite, on la regarde danser. Est-ce qu'elle séduit les clients ? Est-ce qu'elle essaie d'échanger avec eux ? Est-ce qu'elle leur sourit ? Si elle fait tout ça, eh bien les clients ne pourront plus la quitter des yeux. Quand les danseuses répètent toujours les mêmes mouvements, les spectateurs s'ennuient. Le spectacle dure 45 minutes, ça peut vite être long.
Sahar s'est battue pour faire partie de la poignée d'Égyptiennes qui se produisent sur les scènes reconnues du Caire. Mais aujourd'hui, la capitale compte plus de danseuses que de lieux de spectacle pour se produire.
Oui, ça ne fait aucun doute, il y a beaucoup de Russes ici, surtout à Ouargada et à Sharm el-Sher dans le Sinaï. Elles dansent dans des boîtes de nuit et dans les hôtels, mais ce n'est pas une vraie concurrence pour les Égyptiennes. Aujourd'hui, très honnêtement, il n'y a même plus une vraie danseuse au Caire. Les plus célèbres ont disparu des scènes.
Pourquoi ?
Parce qu'elles sont vieilles, elles ne peuvent plus danser. On n'a pas envie de regarder une danseuse qui est comme ça. Non, une danseuse doit avoir un corps parfait.
Et d'ailleurs, ce spectacle de danse du ventre n'est pas l'activité la plus lucrative. Les clients sont aussi très nombreux au rez-de-chaussée de la péniche où se trouve un restaurant asiatique qui attire les kérotes branchées. Avec l'arrivée des frères musulmans au pouvoir en 2012, la vie nocturne du Caire s'est éteinte pendant quelques mois. Le parti islamiste dirigé par Mohamed Morsi prône alors un islam plus rigoriste. Certains spectacles de danse orientale sont interdits. Lorna se souvient avec amertume de cette période sombre.
Toutes les personnes qui sont dans l'industrie de la danse étaient sûres à 90%, même 99% que c'était la fin. Que ce n'était qu'une question de temps avant que la danse orientale ne soit interdite en Égypte, qu'elle soit jugée haram. Vous savez, les autorités auraient trouvé des excuses pour fermer les lieux de spectacle. Ils auraient fermé les établissements qui vendaient de l'alcool ou créé des restrictions sur les manières dont les femmes auraient pu s'habiller en public. Donc tout le monde était très inquiet. Et bien sûr, beaucoup d'Égyptiens ne sortaient pas. Ils avaient peur d'aller dans des lieux de fête, peur que quelque chose s'y passe, qu'ils se fassent attaquer s'ils y allaient.
Avec ses 17 millions d'habitants, la capitale égyptienne est la plus peuplée d'Afrique. Les embouteillages sont le quotidien des kérotes. Nous allons en taxi à la rencontre de la danseuse Dalia.
«
Elle vit à deux pas des pyramides de Gizeh, dans une banlieue calme du Caire. Nous la retrouvons dans son nouvel appartement, car Dalia avait dû fuir le pays avec l'arrivée des frères musulmans. Elle ne se sentait plus en sécurité. Aujourd'hui, elle danse uniquement pour des mariages, des lieux privés, plus discrets et mieux payés.
Comme chez vous êtes, chez vous.
Chez Dalia, les rideaux sont tirés en pleine journée. Un immense portrait d'elle trône au milieu de son salon. On y voit Dalia, plus jeune, très maquillée et presque méconnaissable. À 40 ans, elle continue d'exercer ce métier dont elle est très fière. Mais son visage et son corps sont marqués par des heures de travail de nuit.
Toute la journée, je dois être détendue. Parce que lorsque je monte sur scène, je fais énormément d'efforts.
Hard work.
C'est un travail difficile pour que les gens fassent comme cela.
To hear.
Pour entendre les applaudissements, ça me demande beaucoup d'efforts.
It cost me too much.
Son ex-mari n'acceptait pas son métier de danseuse, alors il la frappait. Le cas est extrême, mais de nombreux Égyptiens portent un regard négatif sur les danseuses. Ces femmes qui vivent grâce à leur corps, qui travaillent dans des lieux fréquentés par des hommes et où l'on sert de l'alcool.
Old people, oh! Danseur.
Tout le monde se dit « Oh, les danseuses, ah, votre jupe est trop courte, vous buvez, vous fumez, ce n'est pas bon pour vous, les femmes orientales. » Mais nous ne sommes pas des prostituées, nous sommes intègres, parce que notre danse, notre travail nous demande énormément d'énergie et de force. Une danseuse est fière de l'être, parce que c'est de l'art, c'est un pouvoir universel. La danse orientale est la mère de tous les arts.
« The mother of all arts, the oriental dance. »
Les danseuses doivent respecter des règles de bienséance pour ne pas être accusées de porter atteinte aux bonnes mœurs. Elles doivent porter un short sous leur jupe, se couvrir le nombril et elles n'ont pas le droit de danser à même le sol, sinon elles risquent d'être arrêtées. Les bars et les clubs doivent avoir une licence pour laisser une danseuse monter sur scène, mais certains s'en passent. Le soir, les policiers du Caire contrôlent à l'improviste, parfois sans leurs uniformes, pour voir si la règle est bien respectée. À deux pas de la place Tahrir, un bar propose des spectacles clandestins. Il faut s'aventurer dans une ruelle étroite pour trouver l'entrée, qui n'est pas visible depuis la rue. À l'intérieur, les clients ont la vingtaine, ils se déhanchent sur de la musique électronique en attendant l'arrivée de la danseuse du ventre. Jenny danse ici. C'est un nom d'emprunt que nous avons choisi pour respecter son anonymat. Nous la retrouvons à 1h du matin. Elle se prépare avant de monter sur scène. Mais son patron l'interrompt. Il lui annonce que des policiers sont là. Jenny doit alors attendre, se cacher. Après une longueur de suspense, les policiers s'en vont. Bredouille, Jenny monte sur scène.
Oui, les danseuses orientales ne sont pas censées se produire dans ce genre de boîte de nuit. C'est la loi. Les propriétaires n'ont pas la licence. Et de toute évidence, les boîtes de nuit qui transgressent la loi ont un bon réseau. Bakchiche. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme ça que ça se passe dans ce milieu. Il faut donner un pot de vin à la police. Bienvenue dans ce drôle de monde. J'aimerais que ça soit noir et blanc, mais il y a plus de 50 nuances de gris dans ce pays.
La baladi dance, la danse de mon pays, en arabe, est remise au goût du jour. Peut-être une conséquence de la révolution de 2011, selon Lorna, l'écossaise.
Ce qui est nouveau au Caire, c'est que dans les bars, ceux de type occidentaux où les clients sont debout, ils dansent sur du hip-hop pendant quelques minutes, puis la musique change, devient orientale et la danseuse arrive. Et tout le monde danse autour d'elle, regarde le spectacle mais participe aussi. Les spectateurs encouragent la danseuse et créent une atmosphère de fête. Et aussi, c'est très intéressant d'être avec de jeunes Égyptiens. Ce ne sont pas des ados, mais des jeunes qui ont la vingtaine, la trentaine. Au contraire, le public qui fréquente les hôtels 5 étoiles sont beaucoup plus vieux parce que ça coûte aussi beaucoup plus cher.
La danse orientale s'essouffle, mais ne meurt pas. Elle attire à nouveau une partie de la jeunesse égyptienne, des jeunes qui ont besoin de retrouver cet art qui fait partie de leur culture. Les danseuses orientales du Caire, coriaces, rebelles et fières. Un grand reportage de Maureen Suignard et Pauline Renoir. Réalisation de Thomas Plé.
Pauline Renoir, Maureen Suignard, bonjour.
Bonjour.
On vient d'entendre votre reportage sur ces danseuses orientales. Comment est-ce que vous êtes entrée en contact avec ces femmes? Maureen, peut-être d'abord.
Alors, en fait, on est rentrée en contact avec elles sur Internet. Au Caire, les danseuses se font souvent discrètes, mais alors sur Facebook, elles inondent vraiment leurs photos, leur profil de photos de danse, de costumes, d'elles très maquillées, parfois même retouchées. Et donc, c'est comme ça qu'on a pu convaincre une quinzaine d'entre elles de nous rencontrer en Égypte.
Sur les réseaux sociaux.
Ouais. Et oui, elles ont tout de suite accepté. On les a rencontrées dans leur loge, dans des cafés ou même parfois chez elles. Alors, ce qui est amusant, c'est qu'elles sont très fières de parler de leur danse, mais dès qu'il s'agit de se confier sur les difficultés d'exercer, elles avaient plus de mal. Le vrai défi de notre reportage, c'était de faire notre travail au Caire. Le régime du président Abdel Fattah al-Sissi ne voit pas d'un très bon œil la présence de journalistes occidentaux sur son sol. Nous n'avons jamais utilisé nos micros dans la rue pour ne pas attirer l'attention.
Et donc, vous vous êtes intéressée aux danseuses qu'on appelle les professionnelles, hein, uniquement?
Oui, alors c'est vrai que le terme de danseuse en Égypte recouvre des réalités qui sont très différentes. On a d'un côté les femmes qui ont vraiment décidé d'en faire un métier et pour qui c'est une passion, donc les danseuses professionnelles. Et de l'autre côté, on a celles qui espèrent seulement gagner un peu d'argent et qui dansent dans des cabarets qui sont très bas de gamme et qui sont parfois des prostituées.
Et on l'entend hein, dans votre reportage, beaucoup d'Égyptiens et d'Égyptiennes aussi ont une image négative de la danseuse orientale, même les professionnelles.
Oui, exactement. C'est un peu difficile à imaginer en France. On a une image très exotique de la danseuse, je pense, ici. Et c'est la grande contradiction au cœur de notre sujet. L'Égypte a vu naître cette danse. Les Égyptiens qu'on a rencontrés sont vraiment très fiers. C'est un art national. Et pourtant, la danse, ou plutôt les danseuses, sont très mal vues. Pour vous donner un exemple, une insulte qui est très courante, c'est « fils de danseuse ».
Et cette image négative, on la retrouve même dans les classes sociales aisées. On a rencontré une jeune femme qui s'appelle Anan. Elle vient d'une famille riche. Elle donne des cours de danse dans un quartier chic du Caire. Elle nous racontait qu'on lui demande souvent « Mais pourquoi tu danses? Tu n'as pas besoin, tu as été bien élevée. » Anan répond toujours que c'est pour son plaisir, mais aussi pour faire acte de résistance.
Alors, il n'y a pas que des Égyptiennes qui dansent. Hein. Vous en avez rencontré des Russes, des Ukrainiennes, des Écossaises ou des Brésiliennes. Et l'État y voit une concurrence déloyale.
Oui, alors en 2003, par exemple, le gouvernement avait d'ailleurs tenté d'interdire à ces danseuses étrangères de danser. Et à ce moment-là, il y avait une poignée d'entre elles qui avaient mené une action en justice en Égypte. Et elles avaient d'ailleurs obtenu gain de cause. Et on peut penser que cette concurrence va être encore plus forte, puisque avec l'instabilité politique de l'Égypte, ça fait vraiment fuir les touristes. Et moins de touristes, c'est encore moins de scènes pour se produire.
Et les danseuses orientales du Caire, coriaces, rebelles et fières, votre grand reportage, Maureen Suignard et Pauline Renoir est à retrouver, à réécouter bien sûr sur RFI.fr.
Autour de la